la langue française conquiert le royaume. La langue française est bien faible encore par rapport au latin lorsque François Ier décide de la soigner, de lui donner toute la vigueur nécessaire pour conquérir son royaume. Il lui prépare une ordonnance. Le 10 août 1539, François Ier signe à Villers-Cotterêts une ordonnance de 192 articles que le Parlement enregistre le 6 septembre de la même année. Appelée aussi ordonnance Guillaumine, du nom de Guillaume Poyer, qui en fut le rédacteur, elle comporte deux articles d'une importance capitale pour la langue française. Celle-ci devient la langue du pouvoir royal, de l'administration, de la politique et de la littérature, doublant de façon définitive le latin, qui lestait toute démarche orale et écrite de son appareil complexe, dont la maîtrise échappait à beaucoup. De plus, cette langue désormais nationale va servir à enregistrer, selon la volonté du roi, les baptêmes et les enterrements. Ainsi naît l'état civil. On n'oublie pas cependant de continuer d'enseigner le grec, le latin ou l'hébreu. Guillaume Budé, le bibliothécaire du roi, lui conseille de fonder pour cet enseignement, qu'il veut largement ouvert à tout public, un collège royal, le futur collège de France. Le français dont il est question dans l'ordonnance de Villers-Cotterêts est la langue d'Oyle, mais c'est surtout la langue de l'Île-de-France et des bords de la Loire. Autrement dit, la langue du pouvoir. Elle va s'imposer peu à peu à tout le royaume. Peu à peu, car on s'apercevra à la Révolution française en 1789 que l'unité linguistique est loin d'être réalisée en France. Cette unité n'existe vraiment que depuis le milieu du XXe siècle, 500 ans après l'ordonnance signée par François Ier. La langue française, le patois de l'Île-de-France, avait déjà été adoptée en 1532 par le Parlement de Toulouse. Elle s'imposait aussi chez les notaires, dans le monde des affaires, où le latin encombrait avec ses rigidités et ses subtilités excessives pour des esprits peu enclins à l'étude des langues anciennes. Voici les articles les plus importants de l'édit de Villers-Cotterêts, en orthographe et en syntaxe de l'époque. Les derniers mots de l'article 111 ont été longuement commentés, sans qu'on puisse apporter de réponse décisive à cette question. Excluait-il toute forme de dialecte et de langue régionale ou bien le latin seulement?
Article 110 et 111. Article 110. Afin qu'il n'y ait cause de doubter sur l'intelligence des dits arêtes, nous voulons et ordonnons qu'ils soient faits et scripts si clairement qu'il n'y ait ne puisse avoir aucune ambiguïté ou incertitude. Ne lieu à en demander interprétation. Article 111. Et pour ce que telles choses sont souventes fois advenues, sur l'intelligence des mots latins contenus est dictarets, nous voulons que dorénavant tout s'arrête, ensemble toute autre procédure, soit de noces courtes, souveraines ou autres subalternes et inférieures, soit de registres, enquêtes, contracts, commission, sentence, testamence et autres quelconques actes et exploits de justice ou qui en dépendent, soit prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel français et non autrement.
Du Bellay, 1522-1560 et Ronsard, 1524-1585, vont devenir les zélés serviteurs de la langue française, nouvellement promue idiome national. Ils puisent leur vocabulaire dans le langage des ouvriers, dans les vieux mots du terroir, et s'ils le jugent nécessaire, ils inventent des termes à partir du grec et du latin, dont les unités signifiantes s'emboîtent si facilement pour rendre compte d'une idée ou d'un objet. Rabelais publie Gargantua en 1534. Le tiers-livre, en 1546. Ces inventions langagières témoignent d'une intelligence, d'une exubérance et d'une gaieté jamais égalées depuis. Montaigne livre à la réflexion du lecteur enchanté ses lumineux essais. L'enthousiasme pour la création des mots nouveaux est tel que, Quelques décennies plus tard, François de Malherbe, 1555-1628, devra faire une sélection sévère parmi les centaines de termes apparus et qui produisent, dans la langue toute neuve, une sorte d'embouteillage peu favorable à la claire circulation de la pensée. Une langue, le français, un lieu de pouvoir, la cour, une formule,
car tel est notre plaisir.
François Ier ne masque pas ses intentions. Il veut unifier le royaume et centraliser le pouvoir. Le Conseil du roi, qui, depuis les Capétiens, réunissait des princes de sang, des pairs de France, des ducs, des grands officiers, en nombre tel que les décisions pouvaient être prises après l'échange de multiples points de vue, se restreint de plus en plus. Louis XII l'avait allégé, François Ier le réduit à quelques confidents qui vont composer un conseil étroit ou secret chargé d'approuver la volonté royale. Le pouvoir monarchique est si étendu et si efficace en France que les pays étrangers s'en étonnent. L'empereur Maximilien en vient à dire un jour
« L'empereur n'est que le roi des rois. Un roi catholique n'est que le roi des hommes. Mais le roi de France est le roi des bêtes. » Car en quelque chose qu'il commande, il est obéi aussitôt, comme l'homme l'est des bêtes.
Centralisation, pouvoir absolu, mais pour quel but? Éviter la concurrence des seigneurs, toujours dangereux lorsqu'ils se retrouvent seuls, éloignés, à la tête de leur région. Percevoir mieux et plus efficacement les impôts qui vont emplir les caisses du royaume pour organiser la vie des 18 millions de Français. L'Angleterre et l'Écosse réunies n'en comptent que 5 millions. Et surtout, financer la guerre incessante, les expéditions en Italie, les fastes de la Renaissance, les dépenses de la cour, les tonnes d'or aux grands électeurs de l'Empire.